est 18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline, vous passerez dans mon bureau je vous prie. Allez, à demain, nous sommes partis pour le 18-20 de France Inter. Ravi de vous retrouver pour ce soir, bienvenue dans l'Europe et sa banlieue. On est ravis de vous retrouver aussi, Amélie Perrier, pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec un nouveau rapport de force.
Et des alliances inédites. Alors avant d'évoquer les élections européennes, le secteur automobile se prépare au mariage entre Fiat, Chrysler et le français Renault. Les syndicats, eux, s'inquiètent. L'Europe et son nouveau Parlement. Depuis hier, les populistes fêtent leur succès en France, en Italie, dans les villes de l'Hexagone. Un duel inattendu s'est dessiné entre la liste En Marche et les écologistes. En revanche, la droite touche le font comme les insoumis, au même score que les socialistes avec place publique. À la une ce soir également, le suspect de l'attentat au colis piégé de Lyon interpellé. Un fantôme au procès du meurtre de la productrice Sophie Toscan du Plantier. Le principal suspect refuse de comparaître. Et puis le Louvre fermé aujourd'hui. Les agents d'accueil font valoir leur droit de retrait face à une fréquentation toujours plus grande.
À 18h15, un jour en Europe. Forcément, ce soir, nous on fait le tour des capitales. On s'interrogera sur la couleur du nouveau Parlement. Nous poserons la question telle que à nos invités. Est-ce qu'elle est à moitié pleine? Est-ce qu'il est à moitié plein? Est-ce qu'il est à moitié vide, le verre de ce Parlement? Plus fragmenté, c'est vrai, mais du coup peut-être plus ouvert à la discussion, plus de populistes d'extrême droite. C'est vrai aussi, mais moins que prévu. Certains pays ont refusé cette lecture-là. On essaiera de passer tout cela en revue. Ça se passe donc dans la première heure. Et puis, à 19h20, le téléphone sonne. Cette fois, c'est à vous de jouer, d'interroger nos invités sur cette nouvelle Europe. Sa composition, est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle pèsera plus? Que pèsera-t-elle d'ailleurs? Si l'Allemagne est plus diminuée, qui prend la place? Vos appels au 0145 24 7000. Nouer de nouvelles alliances, donc, au-delà des frontières.
C'est la règle au lendemain des élections européennes. On va y revenir. La règle aussi dans le secteur automobile. Fiat Chrysler, l'italo-américain, demande en mariage Renault, le français. Le but de ces noces intéressées, créer le numéro 3 mondial. Si Nissan se joignait à l'affaire, le numéro 1 est de loin. Cela représenterait alors, avec les Japonais, près de 16 millions de véhicules vendus dans le monde. Bonsoir, Maxime Debs.
Bonsoir.
Alors, on comprend l'importance financière de l'opération, mais qui dirige ce mastodonte, Maxime? C'est ce qui inquiète les syndicats en France.
Oui, car à première vue, l'État ne détiendrait que 7,5% du capital de ce nouvel ensemble, contre 15% aujourd'hui. De quoi faire sortir de ses gonds Fabien Gage de la CGT Renault.
C'est proprement scandaleux dans le sens où on sait que la structure serait pilotée par un actionnaire majoritaire qui est la famille Agnelli, ce qui voudrait dire que l'État ne pourrait même pas s'opposer à une décision unilatérale, quand bien même elle serait négative pour l'outil industriel ou l'ingénierie de Renault en France.
La CGT qui déplore l'attitude du gouvernement au courant de discussions depuis le début de l'année, mais qui n'a rien dit pour cause, se défend Bercy. L'offre formelle de fusion, elle, ne lui a été présentée que vendredi. C'est quand même fort de café, répondent les syndicats, sans compter qu'une holding pourrait être créée aux Pays-Bas pour diriger tout ça. Là non plus, pas franchement le bon message.
C'est quand même presque une provocation quand on connaît ce que ça a donné dans l'affaire Ghosn. Enfin, là, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans une orientation qui pourrait permettre d'aller vers plus de transparence.
5 milliards d'euros, c'est le total que ferait économiser un tel rapprochement à Renault et à Fiat, un rapprochement essentiel pour l'État au vu des investissements colossaux demandés aux constructeurs afin de sortir du diesel, un défi là aussi à plusieurs milliards.
Merci beaucoup Maxime Debs. Quant à Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien, il voit dans cette demande en mariage de Fiat Chrysler une opération brillante.
Matteo Salvini et sa ligue d'extrême droite, grande gagnante des élections européennes en Italie hier.
Et plus généralement, les rapports de force évoluent au Parlement européen. Salvini en Italie, le Rassemblement national en France, Nigel Farage au Royaume-Uni, les populistes d'extrême droite réussissent une poussée, tout comme les écologistes, et ce, au détriment du traditionnel duel socialiste-conservateur. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Notre correspondante européenne à Bruxelles. Alors Angélique, 751 sièges d'eurodéputés attribués, qui prend le pouvoir au Parlement?
Eh bien personne, car la droite et la gauche ne disposent plus de la majorité des sièges à eux seuls comme avant, avec 325 élus. Ils devront composer désormais avec la troisième force politique, le groupe des centristes et des libéraux, fort de 109 sièges selon les dernières estimations, ou encore les Verts qui font un très bon score avec 70 eurodéputés, avec pas mal d'inconnus encore sur leur composition. Les deux groupes eurosceptiques d'extrême droite disposeraient eux d'une centaine de sièges. C'est un score important en effet, mais pas de quoi bloquer la machine parlementaire.
Et quel poids, quelle influence des eurodéputés français dans ce nouveau Parlement, Angélique?
Eh bien, si on considère que le PPE, la droite, reste le premier groupe politique, alors avec 8 sièges seulement pour LR, on ne pèsera pas bien lourd. Mais ce qui est nouveau, c'est que La République En Marche, représentée par un seul député auparavant, Jean Arthuis, arrive en force avec 22 élus. Cela fera évidemment des relais d'influence pour le président Macron qui n'en avait pas jusqu'à présent dans l'hémicycle. Et puis chez les Verts, il y aura bien 12 Français, ce qui est vraiment beaucoup, mais les Allemands seront plus de 20. Et donc plus puissant. Tout va dépendre donc de la capacité des nouveaux élus à se saisir au plus vite du mode de fonctionnement de cette culture du compromis qui règne ici au Parlement et qui n'est pas toujours leur tasse de thé.
Angélique Bois, en direct de Bruxelles pour France Inter. Merci à vous. Ce scrutin européen rebat les cartes en France aussi. Marine Le Pen tient sa revanche sur la finale ratée de la dernière présidentielle. Cette fois, le Rassemblement National passe devant La République En Marche d'Emmanuel Macron d'une courte tête. 23,31% des voix pour la liste RN, 22,41% pour La République En Marche. Marine Le Pen déjà dans la course à la prochaine présidentielle. Simon Le Baron.
Première analyse de ce résultat par le directeur de campagne Steve Briouat, comme un air de revanche après le second tour de 2017.
Le fait d'être premier, alors que vous tous, vous aviez tous enterré il y a 2 ans, que c'était la fin du Front National à l'époque, eh bien voyez, on est en tête.
Deux objectifs maintenant pour le RN, d'abord au plan européen, où il va tenter de former un groupe d'environ 80 députés. Marine Le Pen sera demain et mercredi à Bruxelles pour négocier avec ses futurs alliés, même si le porte-parole du parti Sébastien Chenu le reconnaît, les nationalistes seront toujours dans l'opposition.
Oui, nous sommes minoritaires, mais nous allons passer a priori de la 8e à la 4e place, c'est-à-dire un bond important. Nous avons des alliés nombreux. Nous sommes en capacité de parler à tout le monde, ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu, d'Emmanuel Macron, qui ne parle plus à personne en Europe.
Et puis deuxième objectif, les élections locales à venir. Louis Alliot espère prendre la mairie de Perpignan l'année prochaine et compte déjà sur les LR en déroute hier dans les urnes.
Demain, moi, dans mon département, on peut mettre dehors la gauche du département. Et après, en Occitanie, on peut mettre la gauche dehors de l'Occitanie. Encore faut-il qu'ils le veuillent et qu'ils aient le courage de le faire. Sinon, ils finiront, voilà, comme le PS, à 6%.
Le Rassemblement National aborde en tout cas ses échéances en position de force, avec en ligne de mire déjà la présidentielle de 2022.
La majorité, elle, échoue donc à garder la première place, mais ne se retrouve pas balayée non plus, ni par l'extrême droite, ni par les gilets jaunes. Ni victoire, ni déroute, dit-on à la REM. Et si le président Macron a voulu instaurer un duel quasiment personnel contre Marine Le Pen, c'est face aux Verts qu'un nouveau match s'est joué. La liste Europe Écologie Les Verts, surprise, et troisième parti de France hier soir, a convaincu les urbains, surtout à Paris, à Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, où elle dépasse les 20%. À Nantes ou encore à Rennes, les Verts ont conquis 24,3% des suffrages. Rennes, exemple de ce nouveau match entre la REM et les Verts, où l'on rejoint notre reporter Mathilde Dehimi.
En 2 ans, En Marche a perdu la moitié des votes rennais, mais reste en tête avec 26% des voix, dont celle de Jacques. Mais ce n'est pas un blanc-seing, dit-il.
Je continue, mais malgré tout avec des petites pointes d'inquiétude quand même. Je veux bien croire qu'il est nécessaire de revoir un certain nombre de choses, par exemple les retraités. Enfin, il faut peut-être arrêter de taper dessus. Ceci étant, qui peut réussir aujourd'hui, quoi ?
Il met en avant le vote Rassemblement National, 8% à Rennes, stable d'une européenne à l'autre. Alerte aussi sur un parti majoritaire encore en construction qui ne le satisfait pas totalement. Sa femme Monique, elle, a voté Les Républicains comme 6% des Rennais.
J'ai voté, bon, Bellamy, par un petit peu... Sinon, j'aurais voté écologie. Hein. Pas l'écologie, et parti politique. J'estime que l'écologie ne devrait pas être un parti politique. Tous les partis politiques devraient s'attaquer à l'écologie.
Le vote écologiste, qui arrive en deuxième position, à seulement 900 voix d'écart d'En Marche, est loin devant les socialistes. Marie-France a quitté les Insoumis pour les Verts.
Pour la première fois, j'ai voté écologiste. Je me suis posé des questions entre Glucksmann et Jadot. Et puis j'étais... peut-être un petit peu influencé par mes petits-enfants.
Un vote écologiste qui promet un bras de fer en vue des municipales au sein de la majorité de gauche. Rennes, Mathilde Dehimi, France Inter.
Des élections aux lourdes conséquences pour les ex-partis traditionnels. À droite, les Républicains se réunissent en ce moment en bureau politique pour tirer les conséquences d'une déroute historique. 8,44% des voix pour la liste emmenée par François-Xavier Bellamy et le chef du parti Laurent Wauquiez, contesté comme jamais. Déception aussi pour la France insoumise à 6,31%, quasiment au même niveau que les socialistes et Place publique à 6,19%. Quant à Benoît Hamon, il n'ira pas au Parlement. Génération n'obtient qu'un peu plus de 3%, de quoi se faire rembourser les frais de campagne, mais pas assez pour avoir un siège d'eurodéputé. Il annonce, Benoît Hamon, prendre du recul, loin des caméras, même s'il reste conseiller régional d'Île-de-France. Résultats et conséquences de ces élections européennes en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne ou en Hongrie, on continue d'en parler avec vous, Fabienne, dans Un jour dans le monde spécial, et puis dans Le téléphone sonne avec vos questions. Et rendez-vous aussi sur franceinter.fr, les résultats, une carte du vote dans les 96 départements de métropole. Europe Écologie Les Verts, premier parti des jeunes, la victoire en trompe-l'œil du RN, voilà autant d'éclairages à lire sur notre site.
Et voilà, donc à tout à l'heure, l'actualité de ce soir, Amélie, c'est aussi le suspect de l'attaque de Lyon arrêté.
C'est un étudiant algérien de 24 ans, inconnu des services de police. Il est soupçonné d'avoir déposé le colis piégé qui a blessé 13 personnes à Lyon vendredi. Il a été placé en garde à vue, comme d'ailleurs ses parents et un autre membre de sa famille. Eux ont rejoint Daesh au Levant. 4 Français ont été condamnés hier et aujourd'hui à la peine de mort par un tribunal en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique. Ces verdicts placent la France dans une position délicate. L'État n'est pas prêt à rapatrier ces djihadistes. L'opinion publique s'y oppose. Mais Emmanuel Macron avait promis il y a un an qu'il demanderait que cette peine capitale soit commuée en peine de prison conformément à ce que défend la France, disait-il. Un autre procès pour un meurtre remontant à Noël 1996. Le procès du Britannique Ian Bailey, poursuivi pour la mort de la productrice française Sophie Toscan-Duplantier. Le 23 décembre, le corps de la jeune femme était découvert dans une mare de sang près de sa maison sur la côte en Irlande. Ian Bailey, accusé du meurtre, clame son innocence et refuse de comparaître. Jean-Philippe Deniau, vous assistez au procès devant la cour d'assises de Paris. Bonsoir.
Bonsoir, Amélie.
Et c'est comme s'il y avait un fantôme dans la salle aujourd'hui, Jean-Philippe.
Ah oui, le banc des accusés est resté désespérément vide dans cette cour d'assises bancale. Pas d'avocat en défense, pas de juré. Et dans les rangs du public, la famille de Sophie Toscan-Duplantier ainsi qu'une quinzaine de journalistes anglaises et irlandais pour couvrir le procès qui restera certainement un des crimes les plus sauvages de la côte irlandaise. Ian Bailey ne viendra pas défendre son innocence, c'est certain. Mais pourtant, il n'aura pas une miette des audiences. Selon l'avocate de la famille des victimes, il suit le procès depuis son canapé, informé minute par minute de ce qui s'y passe par des messages sur son téléphone, messages que la caméra d'un documentariste filme à chaud avec les réactions de chacune des réactions de Ian Bailey. Ian Bailey n'est pas le seul absent de ce procès. Il y avait 23 témoins irlandais convoqués, pas un seul ne s'est présenté. C'est donc un procès essentiellement basé sur des lectures de pièces de procédure qui vient apporter cette semaine une réponse judiciaire au meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. Elle a été décrite ce soir à l'audience comme une femme gaie et souriante qui n'hésitait jamais à porter secours sans parfois se rendre compte du danger, probable scénario de ce qui lui a coûté la vie le 23 décembre 1996.
Merci Jean-Philippe Deniau au Palais de Justice de Paris. Ian Bailey en cours 30 ans de prison et le verdict est attendu vendredi. Absents eux aussi aujourd'hui au grand dam des touristes à Paris, les agents d'accueil du Louvre n'ont pas ouvert les portes du musée. Ils ont fait valoir un droit de retrait. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint. Alors le problème du Louvre, paradoxalement, c'est son immense succès, Isabelle.
Oui, enfin, c'est un problème si les effectifs ne suivent pas. Les 200 agents d'accueil et de surveillance mobilisés aujourd'hui pour dénoncer ce manque d'effectifs disent clairement que le Louvre suffoque, avec à l'appui quelques chiffres. Selon la CGT Culture, il y a aujourd'hui 1200 agents d'accueil et de surveillance. 175 postes ont été supprimés en 2008, alors qu'à cette date, il y avait 8 millions de visiteurs et qu'aujourd'hui, vous le savez, on a dépassé la barre des 10 millions. Et ce sont donc au minimum ces 175 postes que les syndicats veulent récupérer.
Et selon le personnel, Isabelle, quelles sont les conséquences de ce manque d'effectifs ?
Alors l'insécurité pour les œuvres, en particulier dans certaines salles hyper fréquentées, car 90% des visiteurs vont voir au moins une des trois stars du Louvre, la Joconde, la Vénus de Milo et...
La victoire de Samothrace.
Des mauvaises conditions pour les visiteurs et puis même des salles fermées au public faute de personnel de surveillance. Alors en ce moment même, les syndicats rencontrent la direction du Louvre. Une assemblée générale aura lieu ce mercredi matin pour décider de la poursuite du droit de retrait ou d'une grève.
Merci beaucoup Isabelle Pasquier. Et puis l'on apprend ce soir que le romancier François Vaillargues est mort. Le franco-belge avait 77 ans. Il avait décroché le prix Goncourt en 2005 pour 3 jours chez ma mère, publié chez Grasset. Il a aussi reçu le prix Renaudot grâce à la démence du boxeur. En 2009, François Vaillargues avait été élu à l'Académie française au siège d'Alain Robbe-Grillet.
Amélie Perrier pour l'info, merci beaucoup. Amélie, on se retrouve demain, vous êtes exemptée de sous les radars.
Et oui,
ce soir.
Juste pour ce soir.
Juste pour ce soir, on se retrouve demain, on parle d'Europe. forcément au passage. Notez que nous allons en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hongrie notamment. Et puis en deuxième heure, c'est à vous de jouer. Le téléphone sonne et toutes vos questions sur ce nouveau Parlement, les influences, celle de qui désormais sera-t-il plus fort ce Parlement que le précédent? À quoi vont ressembler les alliances, les coalitions de circonstances? Est-ce que la France y aura un point important? Allez-y, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Jean-Pierre Rameau, demain la journée sera la plus fraîche de la semaine.
Oui Fabienne, les maximales demain après-midi seront très souvent en dessous des moyennes de saison. On attend par exemple 15 degrés à Rouen, 16 à Abbeville, Orléans et La Rochelle, pas plus de 17 degrés sur les cours de Roland-Garros, comme à Nancy et Biarritz, 18 à Bordeaux et Dijon, 19 à Toulouse. Ça sera plus doux quand même dans le sud et le sud-est avec des valeurs comprises entre 21 et 25 degrés.
Pardon Jean-Pierre, sinon du côté du ciel, excusez-moi.
Eh bien certainement la journée la plus agitée aussi de la semaine, avec de nombreuses averses. Les orages seront aussi de la partie entre le nord, le centre, le nord-est et l'est du pays. Et c'est pas une blague hein, Fabienne, on prévoit surtout de bonnes chutes de neige, je glisse là, dans les Alpes du Nord, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On attend 20 à 30 cm à 2500 mètres. Seuls le Finistère, le Cotentin, le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône profiteront d'un bon ensoleillement.
Eh ben dites-moi, allez Jean-Pierre Rameau, revenez quand même tout à l'heure après 19h.